Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse aujourd'hui à ce que vous cuisinez. Alors non, nous ne parlerons pas d'un livre de recettes, mais de petites explications scientifiques concernant notre manière de cuisiner. Alors par exemple, pourquoi la farine fait-elle des grumeaux? Pourquoi certaines bouteilles de vin ont-elles un goût de bouchon? Comment expliquer que les légumes n'aient pas la même saveur lorsqu'ils sont coupés et lorsqu'ils ne le sont pas? Pour en parler avec nous, nous recevons l'auteur de « De la science au fourneau » paru aux éditions Belin en 2016. Et cet auteur n'est autre qu'Hervétis. Hervétis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci. On commence à vous connaître à Canal Academy. Vous avez eu l'occasion de venir nous voir déjà plusieurs fois.
En particulier pour parler de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire de l'Académie des Sciences.
Tout à fait, la Fondation.
Qui se développe, qui se développe aujourd'hui. On est en train de créer des pôles régionaux. Il y avait la Franche-Comté, bah, il y aura la Bretagne, il y aura les Rhône-Alpes, il y aura des tas de choses.
Et d'ailleurs, actuellement, nous continuons de diffuser les conférences qui ont lieu, alors pour le moment, à Arbois, dans le Jura. Mais
Arbois, Besançon, Poligny, enfin oui, effectivement, dans tout le Jura, Franche-Comté.
Franche-Comté, ah. Avant bien sûr de se déplacer en Bretagne ou dans le Rhône-Alpes. Nous verrons ça plus tard dans les années à venir, puisque bien sûr nous souhaitons longue vie à cette fondation.
Les années, c'est pour bientôt, ça sera pour l'an prochain. Préparez-vous vite, prenez vos billets de train.
Alors, Hervétis, on va quand même vous présenter, même si on commence bien à vous connaître. Vous êtes toujours physico-chimiste.
Hein, ça change
à l'INRA, au laboratoire de chimie du Collège de France.
Et non, alors ça a changé. Enfin, ça a changé parce que le Collège de France est en travaux, donc le bâtiment de chimie vient de se fermer. Mais le laboratoire est dispersé et donc maintenant l'équipe INRA de gastronomie moléculaire se trouve à ce qu'on appelait dans le temps l'agro et ce qui s'appelle maintenant AgroParisTech. Qui est l'agro. Enfin, l'agro a été réuni avec l'ENGREF, les eaux et forêts, avec l'école de Nancy, avec l'ENSIA, qui était l'école nationale supérieure des industries alimentaires à Massy-Palaiseau. Et ça fait AgroParisTech. Alors, il y a un nom qui est Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement, mais c'est AgroParisTech.
AgroParisTech, eh bien, et comme vous le disiez à l'instant, vous parliez de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire, vous êtes le directeur scientifique de cette
Absolument,
fondation
ouais.
qui vous prend pas mal de temps.
Ah oui, bah, il faut tout construire. Hein, donc, oui. Non, d'ailleurs, on parlait des pôles régionaux, mais peut-être qu'il faut dire qu'avant, il y aura la fête de la science. Alors, la dernière fête de la science, qui était donc le 9 octobre dernier, donc 2006, on a fait le lancement de la fondation en Sorbonne avec Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie, et puis plein de personnes importantes. Bernard Meunier, qui est membre de l'Académie des sciences, chimiste. Il y avait Paul Vial, qui est un grand monsieur de l'agronomie de l'agriculture, génie rural des eaux et forêts. Il y avait Marion Guilloux, la présidente directrice générale de l'INRA. Il y avait un cuisinier, Michel Roth, le cuisinier du Crillon. Et puis alors cette année, ce qu'on fait, c'est que dans la fondation, il y a des divisions. Alors division art, science, technologie, enfin non, on va dire science, technologie, art, hygiène, réglementation, sécurité. Et ces divisions auront leur demi-journée de lancement lors de cette fête de la science.
Alors, pour le moment, ici, dans cette émission Fil des pages, nous allons quand même parler de votre livre.
Voilà,
c'est ce qui nous vaut votre visite ici, de la science au fourneau. Alors, effectivement, comme je le disais à l'instant, hein, ce n'est pas un livre de recettes.
Non, pas moi, non. Ça...
Surtout même que si vous êtes le créateur de la gastronomie moléculaire.
Ah oui, mais la gastronomie moléculaire est une science, c'est pas de la cuisine. Non, je me bats contre la recette. La recette, c'est un truc idiot qui abaisse l'individu au rang d'exécutant. On a un cerveau entre les deux oreilles, c'est pour s'en servir. Et je combats la recette pour essayer de faire une nouvelle écriture culinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que transmettre dans une recette, normalement, on devrait donner l'intelligence technique et l'intelligence artistique. On ne devrait pas dire, battez les blancs en neige, deux, etc. Ça n'a pas de sens. Parce que, d'ailleurs, et on le voit, c'est que les gens qui utilisent des recettes, quand ça rate, parce que le monde du vivant est très varié, donc il y a des coups où ça rate pour des raisons qui tiennent à la diversité des carottes, etc. Et bien, on est stupéfait, au sens littéral du terme, on ne sait plus quoi faire, alors du coup, on refait, on jette tout ce qu'on a fait et on refait. Ça, c'est parce que les recettes sont des très mauvais protocoles, mal fichus, etc. Et qu'au lieu d'expliquer intelligemment ce qu'on est en train de faire et l'objectif, bah on suit un truc écrit qui vous donne des ordres. Qui supporterait ça? Battez les blancs en neige. Et il y a 10 millions de Français qui battent les Blancs en Neige parce qu'on leur dit « c'est indécent ».
Alors, parlons effectivement de manière intelligente et débutons par les graisses.
Vous ne voulez pas parler d'abord de la pomme de terre ?
La pomme de terre.
Oui, non, parce que dans votre introduction, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, enfin plusieurs choses intéressantes bien évidemment, mais il y en avait une que j'ai relevée. C'est, il y a la cuisine, c'est une espèce de truc prosaïque comme ça, bon, on le passe, etc. Alors, il est arrivé une aventure tout à fait extraordinaire. Il y avait une étudiante au laboratoire, une anglaise, que j'avais fait payer par un programme européen qui s'appelle INICON, de transfert technologique, et je lui ai confié comme sujet la question « Est-il vrai que les salades de pommes de terre sont meilleures quand on met les pommes de terre chaudes dans la vinaigrette ?» Alors ça, mes collègues m'ont regardé des yeux ronds, ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est de la science là-dessus ?»
Nous sommes donc dans les secrets de grand-mère, en fait. Hein,
qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et je suis persuadé que c'est le genre de question très importante parce qu'il y a des phénomènes merveilleux. C'est-à-dire que si vous regardez au microscope une pomme de terre que vous avez mise dans la vinaigrette ou dans de l'huile, alors que la pomme de terre est chaude, vous voyez entre les cellules des gouttelettes d'huile. Alors ça, c'est pas normal parce que pour des raisons d'environnement cellulaire, de structure de la membrane et de la paroi cellulaire, il ne devrait pas y avoir d'huile. Donc, ça donnait une indication bizarre. Alors, cette fille a travaillé, Rachel Edward Stewart, qui fait sa thèse maintenant à Bristol, a travaillé pendant un an. Et puis, à la fin de l'année, on faisait une restitution à l'Europe. Hein, et donc, elle faisait son PowerPoint, comme tout le monde, etc. Et puis, il y a des industriels, je ne vous dirai pas lesquels, mais c'est un très gros groupe français, qui sont arrivés ce jour-là parce qu'ils voulaient visiter le labo pour payer une thèse. Et ils payent une thèse aujourd'hui, au laboratoire. Et alors, ils arrivent, et puis il y avait cette étudiante en train de faire son PowerPoint. Et puis, les gens regardent sur son épaule, je la présente, disent « oui ». Alors, je leur dis « oui, vous voyez, c'est un problème important ». Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui mangent de la salade de pommes de terre. La preuve, c'est que les supermarchés en vendent. Vous voyez, on achète des baguettes de salade de pommes de terre. Chez les traiteurs, à midi, les gens... Alors, faisons un petit calcul d'ordre de grandeur. Bon, ben, on achète, mettons, une salade de pommes de terre, mettons, 10 fois l'an, quoi. Mais 10 fois l'an, il y a 40 millions de Français qui l'achètent 10 fois l'an. Comptez que si 1 centime de vinaigrette est absorbé en plus ou en moins par la salade de pommes de terre, ça fait beaucoup de centimes. Et alors, on était arrivé à une somme qui était, je ne sais plus, je crois que c'était 100 millions d'euros par an. Et mes industriels me disent « Oh, mais là, attention, tu es en retard de 2 ordres de grandeur parce que nous vendons à toute l'Europe. » Et en Europe du Nord, ils mangent de la salade de pommes de terre tout le temps. C'est-à-dire que cette question qui paraît complètement idiote, en fait, c'est une question économique essentielle. Alors du coup, maintenant, j'ai plus de scrupules. Je me dis que les questions, du moment qu'elles ont un intérêt scientifique, elles ont certainement un intérêt économique. Et c'est notre devoir d'aller les regarder. Et c'est ça qu'on fait dans le laboratoire. Et c'est ça que je relate dans ces pages, par exemple, de la science au fourneau.
Alors, la pomme de terre a introduit notre sujet. Revenons à nos graisses délicieuses.
Ah oui,
délicieuses.
Alors, vos graisses. Bah oui, c'était une question
d'huile. Effectivement, nous avons tendance, nous, à les chasser. C'est vrai quand même que quelque chose de fondant, c'est vrai que la graisse donne du goût. Comment on explique qu'un morceau de beurre, tout de suite, dans les pâtes, ça va changer, changer notre perception de nos pâtes.
Et comment expliquer que la mayonnaise, qui est dans le fond du jaune d'œuf, du vinaigre et de l'huile, soit autre chose qu'un verre dans lequel vous auriez mis du jaune d'œuf. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, il y a plein de... En plus, c'est un sujet d'actualité scientifique important parce qu'on croyait qu'on avait des détecteurs de la saveur, salé, sucré, acide, amer, monoglutamate, réglisse, tout ça, des détecteurs de l'odeur, les molécules odorantes, etc. Mais les graisses, on pensait qu'elles n'avaient pas de saveur et qu'elles n'avaient pas d'odeur. Or, une découverte qui a été faite à l'INRA de Dijon, une découverte très importante et toute récente, c'est que nous avons des détecteurs du gras. Nous avons des récepteurs du gras. Alors, à quoi ils servent ? On ne sait pas très bien. Comment appeler la sensation qui correspond à la détection de ces molécules de graisse ? Je dis graisse pour simplifier pour les auditeurs. Normalement, nous mangeons essentiellement des molécules avec un nom très compliqué qui s'appelle triglycéride. Normalement, on devrait même dire triacylglycérol, mais enfin, ce n'est pas grave. Donc, on va dire graisse pour simplifier. Hein. C'est une famille, les graisses, qui est compliquée parce que, vous voyez... Dans une bouteille d'huile, il y a essentiellement des triglycérides. Alors, pour expliquer ce que c'est, j'aime bien me le représenter comme un peigne à trois dents. Le manche du peigne, c'est le glycérol, avant réaction, et puis les dents, c'est des acides gras. Voilà. Une fois que ça a réagi, il n'y a plus de glycérol, il n'y a plus d'acide gras, il y a les triglycérides. Hein, et dans une bouteille d'huile, c'est ça qu'on a. Alors, il n'y a pas d'acide gras. Et alors, le malheur, c'est que le monde de la publicité fait croire à tout le monde que dans nos huiles, dans nos beurres, etc., il y a des acides gras. Non, il n'y a pas d'acide gras. Il y a des triglycérides. Et une fois que ça réagit, il n'y a plus d'acide gras. Hein. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a des acides gras insaturés, polyinsaturés, mm-hmm. machin truc. Non, il y a des triglycérides dont les constituants acides gras sont insaturés, très bien. Bah, alors, cela dit, maintenant, dans le monde des graisses, il n'y a pas que ça, parce que toutes les cellules vivantes sont limitées par des membranes. Et ces membranes, c'est des molécules tout à fait rigolotes. Il faut penser à une petite boule avec deux pattes. Parce que ces molécules s'appellent
vous
des
fausses... Vous avez toujours une manière
pour... Oui, parce que c'est moins prétentieux. Alors, le vrai nom chimique, c'est phospholipide, mais vous voyez, phospholipide, 5 syllabes, c'est plus que le citoyen moyen que nous sommes, hein, ne peut comprendre. Alors, on va dire peigne à 3 dents et on va dire boule à 2 pattes, hein, si vous voulez. Alors, ces phospholipides, qui sont nombreux, par exemple, dans le jaune d'œuf, et les triglycérides, c'est pas du tout les mêmes molécules, mais c'est pourtant du gras. Mais il y en a d'autres, des molécules de gras, par exemple dans les cires, dans, vous voyez, les feuilles de salade. On croit que la salade, elle est cuite par le vinaigre quand on met dans la vinaigrette. Eh ben non, elle est cuite par l'huile, parce que paradoxalement, les feuilles, ben, c'est pas paradoxal du tout. Le monde est bien fait. Hein. Les feuilles de salade sont recouvertes d'une cire qui protège les cellules. Et donc, le vinaigre, lui, il roule comme de l'eau, puisque le vinaigre, c'est de l'eau, en gros, hein, de l'eau acidifiée, mais c'est de l'eau, hein, 80%. Ça roule sur cette cire, comme l'eau le fait sur une feuille. Vous avez bien vu ces feuilles où l'eau roule. Alors que l'huile, elle s'étale très, très bien, elle rentre dans les interstices, et elle fait que la feuille se flétrit en un instant. Alors, bon, tout ça, c'est ce relation entre le vivant et la chimie. On est en cuisine, dans le fond. Hein. On fait de la salade, on est en cuisine. Et pourtant, il faut ces connaissances sur les molécules, sur les phénomènes du vivant, pour essayer de comprendre ce qu'on fait.
Alors, une fois qu'on a mangé nos pâtes, on va prendre un verre
d'eau. Ah oui, parce
que
je n'ai pas répondu. Bah, pourquoi il faut mettre du beurre dans les pâtes? Il y a une expérience très amusante. Vous allez prendre du jaune d'œuf et du vinaigre. Vous mélangez un jaune d'œuf, une cuillerée de vinaigre, sel, poivre. Vous allez le goûter, c'est bon, ça passe assez vite en bouche. Maintenant, vous allez y mettre de l'huile goutte à goutte pour faire ce qu'on appelle une émulsion et donc obtenir une mayonnaise. Il n'y a pas de moutarde dans la mayonnaise, sinon ça s'appelle de la rémoulade. C'est simplement un fait historique. Être chimiste, ça n'empêche pas de s'intéresser à d'autres choses, à la philosophie, à l'histoire, etc. Bon. Il n'y a pas de frontière entre les disciplines, à mon avis. Il y a la science, et la science est une, et on ne fait pas de distinction entre la physique, la chimie, l'histoire, le machin, tout ça, c'est la connaissance. Bon. Alors, maintenant, vous avez donc ajouté de l'huile à de l'eau, puisque le jaune d'œuf, c'est de l'eau à 50%, le vinaigre, c'est à 80%, et l'huile ne se mélange pas à l'eau. Votre fouet a divisé votre goutte d'huile que vous ajoutez en deux et en deux et en deux, donc ça devient microscopique, il vous faut un microscope pour le voir. Et ça, quand c'est tassé dans l'eau, ça s'enrobe des molécules de phospholipides, mais surtout de protéines du jaune d'œuf. On a longtemps enseigné que c'était les phospholipides qui faisaient les émulsions. C'est vrai, ça fait des émulsions. La preuve, vous pourriez faire une sorte de mayonnaise au liquide vaisselle, ça marche très bien. Ou même, je vais dire une chose affreuse, au crachat.
Ah, oui.
Non, mais la salive, c'est de l'eau qui contient des protéines en solution, des protéines salivaires. J'ai fait ça à l'université, les étudiants crachaient dans un bocal, on ajoutait l'huile en fouettant, on montait une émulsion. Qu'on mangeait pas, hein, rassurez-vous. On l'a fait à l'huile de vidange, enfin, on peut le faire à ce qu'on veut, hein, c'est toujours le même principe. Émulsion, c'est un mot qui était introduit par Ambroise Paré, chirurgien du roi, en 1560. Hein. Alors donc, jaune d'œuf, vinaigre, vous mettez de l'huile, vous fouettez, vous avez donc une émulsion qui s'appelle une mayonnaise. Vous le goûtez maintenant, vous allez voir que la longueur en bouche est extraordinaire. La longueur en bouche, c'est vous le goûtez et puis vous comptez 1, tout le temps que vous sentez des sensations. C'est ce que font les dégustateurs de vin. Alors, leur unité de mesure, c'est la seconde, mais ils appellent ça des caudalies, C-A-U-D-A-L-I-E, avec un S s'il y en a plusieurs. Et ce qu'on reconnaît comme belle qualité à un vin, c'est sa longueur en bouche. Un vin qui a 20 caudalies, c'est un truc incroyable. Les vins du Jura, par exemple, les vins jaunes ont une très très grande longueur en bouche. Eh bien, il se trouve que la mayonnaise, l'huile sert surtout à donner de la viscosité, donc ça coule moins vite, donc vous le gardez plus longtemps en bouche. Mais une fois que ça a coulé, vous avez il y a des tas de systèmes de réofluidification. C'est-à-dire, réofluidifiant, ça veut dire que vous mettez une cuillère dans votre mayonnaise, elle tient debout. Donc ça a l'air d'être solide. Vous inclinez votre verre avec la mayonnaise, ça ne coule pas. Mais en bouche, ça s'écoule très bien parce que plus ça va vite, plus ça s'écoule facilement. Hein. Alors ça, c'est des caractéristiques très intéressantes de la mayonnaise. Mais en plus, il y a le fait que la graisse tapisse la bouche et ça reste des minutes. Vous avez un nombre de caudalies impressionnant. Comme d'ailleurs dans le lait, est une émulsion. D'ailleurs, c'est pour ça que Ambroise Paré avait appelé émulsion les émulsions. Mm-hmm. Parce que émulsion, ça vient de émulguerer, qui veut dire traire. On traite les vaches pour obtenir du lait. Et donc, le lait est une émulsion, il y a beaucoup de longueur en bouche avec du lait. Beaucoup plus qu'avec du vin.
Alors justement, vous parlez de vin, venons-en à notre bouteille de vin. Certaines bouteilles, quand on les débouche, malheureusement, le vin est gâté, il a un goût de bouchon.
Oui, c'est dommage.
Alors,
oui,
vous avez l'explication scientifique, alors nous sommes...
Oula, non, j'ai pas l'explication scientifique, non, ça certainement pas. J'ai mille questions passionnantes, mais qu'a le monde du vin. Alors d'abord, il faut savoir que c'est un problème économique très grave. Parce qu'il arrive souvent que les bouteilles de vin aient un goût de bouchon, et là, il y a un problème d'assurance. C'est-à-dire, qui est responsable? C'est pas le client qui a demandé la bouteille. Il dit, moi je veux une bouteille qui soit correcte, vous me donnez une bouteille goût de bouchon, je la paye pas votre bouteille. Donc ça tombe sur le restaurateur. Mais le restaurateur, de la même façon, il se retourne vers le vigneron. Et puis le vigneron, il va se retourner vers le fabricant de bouchons. Donc il y a depuis quelques années une industrie et une science et une technologie du goût de bouchon qui s'est développée. Il y a même des laboratoires assermentés qui peuvent vous dire... Alors dans le temps, on disait, c'est le liège qui donne le goût de bouchon. Donc les fabricants de liège étaient très ennuyés. Et puis, ils ont un peu regardé ce qu'il en était, et on a commencé par identifier des molécules qui donnaient le goût de bouchon. Alors par exemple, le trichloroanisole est une molécule, on a longtemps dit, et on le dit encore quand on est ignorant, que cette molécule, c'est celle qui donne le goût de bouchon. Alors oui, elle donne un goût de bouchon, ce goût de bouchon est très passionnant, et on a des études au laboratoire je vous raconterai ça après, mais surtout, ça n'est pas la seule. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on vient de découvrir que le liège peut apporter un goût de bouchon, mais le traitement des poutres dans les chais apporte d'autres molécules chlorées qui donnent un goût de bouchon, ou bromées qui donnent un goût de bouchon. Et alors, précisément, il y a des laboratoires qui sont devenus capables de savoir maintenant si on se retourne vers le vigneron qui a traité ses chais avec ces molécules et qui donc a contaminé ses propres vins, ou le fabricant de liège. Alors, donc, ce problème est un problème encore économique, encore essentiel. C'est difficile. Alors c'est difficile, pourquoi? Parce que des molécules qui donnent le goût de bouchon, elles le donnent en quantité infime. Par exemple, le trichloranisole, les expériences sur le trichloranisole, je vous assure qu'au laboratoire, c'est effroyable. Il en suffit de quantité minime pour que tout le laboratoire soit contaminé, on ne sent même plus le goût de bouchon tellement il est présent. Et alors, une expérience qu'on a faite récemment, on voulait savoir si la pratique des cuisiniers de cuisiner les vins qui ont un goût de bouchon, au lieu de le jeter à l'évier, ils le cuisinent, était... tenable, quoi. Alors, on a donc distillé des vins, puisque cuire un vin, ça veut dire, on suppose qu'il y a des choses qui s'en vont, donc nous, on voulait le récupérer pour l'analyser. Alors d'abord, c'est difficile d'analyser le trichloranisole, mais alors en plus, ce qui s'est passé, c'est que, il y a un truc très intéressant, le distillat, donc le vin modèle distillat, nous, ce qu'on fait, c'est pas prendre du vin bouchonné, hein, parce que ça, on sait pas ce qu'on a, on prend de l'eau, on y met de l'éthanol très pur, et on y met du trichloranisole en quantité infime, je dis. Et alors, le distillat ne sentait plus rien. En revanche, la partie récupérée de la distillation, elle puait le goût de bouchon. Donc on s'est dit, tiens, c'est marrant.
La solution, en fait, c'est de faire chauffer le vin.
Alors, ça, c'est ce qu'on croyait. Mais par curiosité, je me dis, il faut quand même qu'on goûte ce distillat. S'il n'a plus de goût de bouchon, il n'a plus de trichloranisole, ça, on devrait être tranquille. C'était effroyable. Alors, c'était pas dosable. Hein. Le trichloranisole n'était plus dosable. C'était effroyable. On a eu la bouche contaminée pendant une journée entière. On était deux à le goûter. Et en fait... Le trichloranisole, où on croit que c'est une odeur, parce que souvent, quand on dit le vin bouchonné, on le sent. Mais en fait, c'est surtout une saveur. Et alors là, ça, c'est très épatant, parce que c'est une petite nouvelle, quoi. Alors, vous voyez,
quand on dit qu'il y a une bouteille, par exemple, qui est bouchonnée, effectivement, ouais. On dit qu'il a un goût.
Et on a bien raison. Il peut y avoir l'odeur, mais l'odeur, on la sent quand la concentration est importante, mais alors la saveur, on la sent en toute petite concentration. Et alors, on a fait ça avec le trichloranisole, il va falloir faire tout le reste, c'est-à-dire toutes les autres. Bon, ça ne résoudra pas le problème légal, mais ça, c'est une autre question. Nous, ce qui nous intéressait au laboratoire, c'est de savoir si on pouvait cuire les vins bouchonnés. Alors, mais ça, je ne pense pas que je le relate dans ce livre de la science de
Fondo. Cette expérience-là. Vous parlez de cuisson, on va aussi parler un peu de cuisson et notamment suivant la température à laquelle on va cuire par exemple un poulet, il aura une saveur différente. Et puis également, vous avez un petit article sur les homards et expliquer pourquoi les homards changeaient de couleur à la cuisson. Effectivement, est-ce qu'on a l'explication? Est-ce que vous avez l'explication?
Oui, alors ça a été une enquête policière, comme la science en fait belle pendant longtemps pour le homard. Il y a d'abord un phénomène. La science, elle se préoccupe des phénomènes. Le grand Lavoisier, qui était membre de l'Académie des sciences, bien évidemment, l'a très bien dit. Il a dit « la science, c'est les phénomènes, et c'est ça que la science doit explorer ». Alors, il ajoutait même « les phénomènes, on les a par des pensées, et les pensées, on les a par des mots ». Et conclusion de Lavoisier, « on ne pourra pas perfectionner la science sans perfectionner le langage ». C'est tout à fait essentiel. La science doit bien parler, et souvent, on fait de la bonne science quand on parle bien, et on fait de la mauvaise science quand on parle mal, parce que si on confond les concepts, on ne peut pas bien les manier, c'est tout simple. Bon. Alors maintenant, c'est clair, la science doit chercher les mécanismes des phénomènes. Enfin, je n'ai pas à dire ce qu'elle fait, ce qu'elle doit faire, mais en fait, c'est ça qu'elle doit faire. Parce que sinon, si elle est dans les applications, c'est de la technologie, elle sait plus de la science. Il n'y a pas de science appliquée, le grand Louis Pasteur l'a bien dit. Donc la science cherche les mécanismes des phénomènes. Comment elle les cherche ? Jusqu'à plus informé, elle a une méthode, et cette méthode s'appelle la méthode expérimentale, qui a été introduite par de grands penseurs, qui sont Francis Bacon, qui sont Galilée. On a dit que Bernard Palissy, notre maître des émaux, avait été un des introducteurs. J'ai même propagé ce bruit. En relisant Bernard Palissy, je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'il a fait des essais, mais il n'avait pas la méthode expérimentale. La méthode expérimentale, Galilée le dit, il dit... Le langage de la nature, c'est les mathématiques. Et la méthode expérimentale, c'est quand même ça. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a donc... Revenons au homard, parce qu'il y a un phénomène.
Homard.
Le homard, en Bretagne, il est bleu quand on le sort de l'eau, on le chauffe et il devient rouge. Alors, Grimaud Larenière disait « il cardinalise à la cuite hein ». Non. Alors, pourquoi ? Alors, donc, dans une carapace de homard, il faut savoir qu'au premier ordre, il y a d'abord des carbonates. La preuve, si vous mettez une carapace de crabe, de homard, de crevette, de ce que vous voulez dans du vinaigre, vous voyez des bulles, il y a du CO2 qui se dégage, et vous récupérez un truc tout mou. Alors, donc ça veut dire, qui pèse pas lourd. Donc ça veut dire que d'abord, une carapace, c'est des carbonates. Ce qui est normal, on le savait. Alors ensuite, il vous reste des tas de choses. Il vous reste des protéines, et il vous reste des pigments. Parce que les pigments, c'est ce qui donne de la couleur. Alors, il y a en particulier dans le homard un pigment qui s'appelle l'astaxanthine, qui est de la même famille que le bêta-carotène qui fait que les carottes sont... Enfin, qui est une des molécules importantes pour le rouge des carottes. Enfin, le rouge, orangé, oui. Jaune. Il n'y a pas que de l'astaxanthine, mais c'est une molécule qui s'appelle... c'est un caroténoïde. Caroténoïdes, en gros, c'est des molécules qui ont des longs fils en zigzag, voilà, on va dire ça comme ça, avec des têtes de chaque côté. Hein. Donc, vous voyez, comme une haltère, voilà, ces molécules. Alors, ces molécules, le malheur, c'est qu'elles donnent la couleur rouge, puisqu'elles sont de la même famille que les carottes. Donc, la question, c'est pas comment ça se fait que le homard devienne rouge, c'est comment ça se fait qu'il soit bleu.
Il soit bleu à la base.
Alors que la molécule colorante, elle, donne la couleur rouge. Alors, ça, c'était un travail très, très intelligemment fait, très difficile, de nombreuses années. On avait d'abord compris qu'il y avait une association de cette astaxanthine avec des protéines. Les protéines sont abondantes dans le... Et c'est d'ailleurs ça qui fait que les bisques de homard ont bon goût. C'est-à-dire que quand vous grillez une carapace de homard, ce que vous faites, c'est que vous faites sans doute une pyrolyse des protéines, vous faites peut-être des réactions de Maillard, des tas de choses, mais les protéines sont sans doute très importantes.
Est-ce que les cuisiniers se doutent de toutes ces explications, de toutes ces...
Ils s'en doutent maintenant que le livre est publié. Non, mais ça sert aussi...
Ils lisent tous,
bien sûr, mais ça sert aussi à ça. Ça sert... La science, j'ai l'impression que c'est un peu comme la cuisine. On fait la science pour les autres. Hein. Regardez, si on est payé par l'INRA ou par le CNRS ou par... on est payé par la communauté. La science doit rendre des comptes à la société civile qui nous paye. Enfin, je le crois très fort. Et c'est ça uniquement qui motive mon effort de vulgarisation. Sinon, moi, je suis bien plus tranquille au laboratoire à faire de la science, hein, comme tout le monde. Il n'y a pas de tintouin. Ces trucs-là, ça prend sur le sommeil, ça prend sur les week-ends, ça prend sur les vacances, ça prend sur le labo. Hein, et moi, j'aimerais mieux être au labo tout le temps, seul, sans étudiants, sans avoir à transmettre. C'est là qu'on fait de la science, c'est là qu'on réfléchit, c'est là qu'on devient intelligent. C'est terrible. Galilée le disait déjà. Quand il était à Venise, il se plaignait en disant, mais enfin, vous me payez mal, vous me forcez à faire de l'enseignement, moi je dois apprendre à savoir, je sais rien, je suis un âne. Hein. Relisons la vie de Galilée par Bertolt Brecht, c'est ça qu'il dit, et il le disait. Hein. Bon alors non, alors revenons.
Revenons à notre homard.
Oui, il faut dire aux cuisiniers que dans les carapaces, il y a ce carbonate qui ne sert à rien, bien que peut-être que si on dissout le calcium dans du vinaigre. Ce vinaigre contiendra des ions calcium, et le calcium, on en a besoin pour les os. Alors, est-ce que ce vinaigre qui serait calciumisé ou calcifié, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser en cuisine, c'est, au lieu de le gâcher? Bon, puis après, il y a ces protéines qui sont quelque chose de bon. Et puis alors, il y a cette astaxanthine, qui est une, revenons en science, qui est une molécule merveilleuse. Et alors, la découverte il y a très peu de temps, ça a été de dire que, en fait, cette astaxanthine, donc cette alter, dans la carapace, elle n'est pas posée comme ça. Elle est dans un environnement. Et en particulier, elle est liée, d'abord, en dimère, c'est-à-dire qu'il y a deux alters collées l'une contre l'autre. C'est un peu plus compliqué que ce que je vous dis, en fait. Et puis, c'est tenu par des protéines. Et ces protéines vont faire que les alters sont tordus. Et en tordant les alters, on change les propriétés d'absorption de la lumière et on fait que ça absorbe, que ça lâche, ça relargue la lumière bleue. Et d'où le changement de couleur. Alors ça, c'est un mécanisme très intéressant.
Au contact de l'eau bouillante?
Alors non. Alors dans l'eau bouillante, les protéines sont défaites. Comme vous voyez, vous prenez du blanc d'œuf. C'est de l'eau et des protéines. Vous chauffez, les protéines se débobinent, si vous voulez, et puis ça s'attache et ça fait le blanc d'œuf coagulé. Oui. Et bien dans la carapace du homard, vous chauffez, les protéines se défont, l'assemblage est détruit. Et à ce moment-là, les molécules d'astaxanthine reprennent leur belle couleur rouge. C'est un peu compliqué, mais c'est ça la science, c'est aussi d'aller voir des phénomènes quand même qui sont... Alors qu'est-ce qu'on en fera? Voilà une question intéressante. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? Ben, on comprend quand même mieux des phénomènes d'absorption de la lumière par des molécules, et ces phénomènes d'absorption de la lumière... Le vivant, il est très, très homogène. Enfin, c'est les biologistes de l'évolution de vous le dire. Claude Combes, qui était membre de l'Académie des sciences, vous le dirait mieux que moi, puisque c'est sa spécialité. Ces phénomènes, on les retrouve partout. C'est ce qu'avait bien compris Pierre Potier. Il y a une espèce d'économie du monde vivant. L'évolution, elle ne s'est pas amusée à refaire mille fois la même chose. D'ailleurs, les récepteurs de la saveur et les récepteurs de l'odeur se ressemblent. Hein. Et moi, je suis sûr que ce phénomène qu'on trouve dans la carapace du homard, mais qu'on trouve aussi chez la crevette, chez le,
la langouste,
la langouste, l'araignée de mer, etc., ces phénomènes, ils doivent se retrouver aussi dans d'autres règnes que celui, ou groupes, disons, vivants que celui-là, sous des formes variées, parce que ça m'étonnerait bien que l'évolution ait inventé plusieurs fois la même chose. C'est économique, quand elle a trouvé quelque chose, elle le réutilise.
Pour terminer cette au fil des pages, peut-être pourrions-nous parler de ce chapitre, de cet article sur les dictons culinaires. Vous savez, il y a plein de dictons.
Je les appelle plus les dictons culinaires. Je les appelle plus dictons culinaires.
Vous les appelez comment?
Alors la question. D'abord, je dois ma vocation. Enfin, ma vocation. Je suis chimiste depuis l'âge de 6 ans. Donc ma vocation de chimiste, c'est une boîte de petits chimistes à 6 ans. C'est ça fait. Mais je dois l'engagement dans la gastronomie moléculaire et je dois la fondation de la discipline elle-même à une expérience sur des soufflés au fromage. Je faisais des soufflés au fromage et la recette me disait ajouter les jaunes d'œufs deux par deux. Esprit rationnel, ni Dieu ni maître, deux par deux, il m'ennuie, je vais les mettre tous ensemble. Et le soufflé est raté. C'était le 16 mars 80, je m'en souviens comme... Non, mais parce que j'ai mon cahier de labo. Hein. Et alors, j'avais des copains à dîner, donc le soufflé est un peu raté. Le 23 mars, qui était encore un dimanche soir, je reçois des copains, je ne savais pas quoi leur faire, je me dis, je vais leur faire le soufflé. Je relis la recette, il me dit, mettez les jaunes d'œufs deux par deux. Je trouve cette phrase-là, je me dis, mais c'est peut-être ça la raison pour laquelle le soufflé était raté. Mettons-les un par un, puisque de toute façon, si c'est mieux de ne pas mettre tout ensemble. Et le soufflé est meilleur. Alors là, je n'ai pas attendu, et le 24 mars 80, j'ai pris un cahier, que j'ai appelé cahier de labo, j'ai mis mon nom, mon adresse, numéro de télépage, et je me suis dit, il y a plein de ce dicton culinaire en cuisine, il serait temps de les garder, parce que, en plus, l'urbanisation fait que les vieux dictons des vieilles personnes sont perdus en ce moment. Alors, il faut les sauvegarder pour les mettre dans une sorte de musée. Un musée sur Internet, un musée comme vous voulez, mais ils traînent des phrases du style « Quand les femmes ont leurs règles, les mayonnaises tournent ».
Voilà,
tout
c'est
le
là
monde
où je
le
en
sait.
Venir.
Et oui, tout le monde le
et
sait.
Et c'est avéré ou pas?
Non, ça, j'ai fait l'expérience. Enfin, j'ai fait faire l'expérience. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas d'influence de la lune sur la mayonnaise, des marées. Oui, mais pas la mayonnaise. Les effets, on peut les calculer. Ils sont nuls. Mais les règles féminines, il n'y a pas de magie. Enfin, il y a beaucoup de magie, mais pas celle-là. Il y a de la prestidigitation, ça c'est du mensonge, mais la science est suffisamment extraordinaire pour qu'on n'ait pas besoin de la magie. C'est pas... Regardez notre homard dont on vient de parler, c'est extraordinaire, il n'y a pas besoin de magie en
tout
plus.
Tout s'explique.
Non, tout... comme disait le grand mathématicien Hilbert, vir Zollen, Mussen, on doit savoir, il faut le chercher. Ça s'expliquera peut-être, mais à nous de chercher. Alors, sur les dictons, donc j'avais commencé cette collection de dictons. J'en ai maintenant 25 000 sur toute
en la cuisine. Français, mais certainement aussi en langue étrangère.
Non. En français seulement, sur tous les livres de cuisine depuis 1319. Enfin, tous les livres de cuisine, sur les principaux, parce que c'est déjà beaucoup. Mais alors, ce qui est plus intéressant, c'est que, en fait, la frontière est floue entre dictons, tours de main, adages, maximes, trucs, astuces. Et alors, j'ai compris en 2003 que toute recette est composée de deux parties. Il y a une partie qui est une définition, par exemple, une compote de poire, c'est des poires, de l'eau, du sucre, on chauffe. Et puis, c'est dicton, tour de main, adage, machin. Et alors, par exemple, on vous dit, la compote de poire, il faut que vous le fassiez dans une casserole en cuivre étamé. On vous dit, il faut que vous
les cuisiniers aussi pensent toujours qu'il faut cuisiner dans des
bassines en cuivre. Alors ça fait pas partie de la définition. Mm-hmm. Alors j'ai proposé le mot précision culinaire. Donc il y aurait les définitions et les précisions. Et les précisions, ça regroupe tout le reste. Comme ça, on a pu à chercher des frontières entre adage, maxime, dicton. C'est difficile de trouver des frontières. Par exemple, si je vous dis les compotes de poire seront bien blanches si vous mettez du jus de citron. C'est pas un dicton, c'est un truc culinaire. Vous voyez, un dicton, c'est bien les mayonnaises tournent quand les femmes ont leurs règles. Ça, c'est un dicton. Mais l'autre, c'est pas tout à fait un dicton. Et puis, il y a des cas, c'est un peu plus subtil. Par exemple, on vous dit, prenez plutôt des poires de moyenne grosseur pour faire votre de compote. Bon, ben, pourquoi ? C'est pas un dicton, c'est pas un truc, c'est un conseil. Alors, ça n'est pas dans la définition, parce qu'avec des petites poires, vous pourriez faire des compotes de poires. C'est quelque chose en plus. Donc, j'appelle ça des précisions culinaires. Alors, il y a eu un grand débat avec Roald Hoffmann, prix Nobel de chimie, qui est un copain de Jean-Marie-Laine, avec qui je discutais par email de cette affaire. Et Roald était un peu embêté avec cette distinction. Donc, on a eu. Mais finalement, il s'est rangé à l'idée, oui, la distinction existe. On peut appeler ça précision et définition. Et je crois que je l'ai convaincu. Donc, si j'ai convaincu Roald Hoffmann, qui est un très grand prix Nobel de chimie et quelqu'un qui est un intellectuel puissant, je crois que ça s'impose.
Alors, il n'y a pas tous ces détails-là hein, sur les dictons dans votre livre, mais on trouve aussi plein d'autres choses. Malheureusement, on ne peut pas parler de tout. Bah je rappelle le titre de votre livre, De la science au fourneau, paru édition Belin, collection pour la science, paru en 2007, dont l'auteur n'est autre que vous, Hervé Tisse. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre visite.
Merci.
Et puis, à une prochaine fois pour un prochain livre ou de prochaines conférences, certainement.
La Fondation
Sciences et Culture Alimentaire. Merci de votre visite.
Merci.
Et une prochaine fois, au revoir. Ouais.